Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi aujourd'hui, j'ai dû me débrouiller sans notre papier, fait que j'ai apporté mon ordinateur plus proche. J'ai plus d'encre dans mon imprimante, donc je me suis débrouillé là comme je pouvais. Donc c'est pas que je vais sur internet pendant que je fais ma prédication, c'est que mes notes sont toutes là, donc je suis un petit peu dépendant de mon ordinateur. Et à cause de ça aussi, malheureusement, j'ai pas la présentation PowerPoint, donc ça m'apprendra à être plus prévoyant puis m'acheter mon langue d'avance. Bon, on est béni, une belle journée enfin après plusieurs pluies, après plusieurs journées de mauvais temps. Ce matin, j'ai décidé de pas venir en vélo quand même au cas où. Parce que il y a deux semaines, pour ceux qui étaient là, ben j'étais venu en vélo, il y avait plu et j'étais arrivé tout trempé, j'étais complètement trempé. Mais bon, fait que le Seigneur est bon. Le message que j'ai à cœur aujourd'hui de vous partager est en lien avec le message que je vous ai partagé il y a deux semaines concernant Abraham et l'appel que Dieu lui a lancé. Vous vous souvenez, dans ce message, j'ai dit que Dieu veut utiliser un agent. C'est la première fois que dans la Bible, on voit que Dieu veut utiliser un intermédiaire pour faire son œuvre. Il avait dit à Abraham, « Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Et avant Abraham, Dieu faisait tout le temps le travail lui-même. Dieu interagissait toujours avec l'humanité directement, sans anges, sans humains, directement avec les humains. Mais à partir de Genèse 12, Dieu fait une promesse et il dit que cette promesse-là va s'accomplir par l'entremise d'une personne, entre autres, et d'un peuple par la suite. Et dans le Nouveau Testament, on voit que ces personnes-là deviennent, le peuple de Dieu devient les chrétiens. Et c'est par nous que Dieu veut accomplir sa mission. Le titre de mon message ce matin, c'est tout simplement les dons spirituels. Et on va voir que, au même titre que Dieu utilisait des personnes dans l'Ancien Testament pour accomplir des missions particulières, Dieu nous confie des dons. Chacun d'entre nous avons une personnalité et le Seigneur nous donne des talents. Et par son esprit, il veut agir d'une manière particulière au travers de chacun d'entre nous. Donc, le message que j'ai ce matin est vraiment en continuité avec ce que je vous ai dit il y a deux semaines. Et on va voir un petit peu plus comment tout ça prend forme dans le Nouveau Testament et en lien avec le Saint-Esprit qui nous est donné depuis la Pentecôte. Donc, tournez avec moi dans 1 Corinthiens 12. On va lire les 14 premiers versets. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 14. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés par les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Nul qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses sortes de langues, à un autre, l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ce privilège que nous avons de nous rassembler ce matin en frères et sœurs et d'être rafraîchis par toi, par ta présence, par ton esprit. Et Seigneur, on te demande de guider toutes choses afin que tu puisses parler à chacun d'entre nous parle à nos cœurs, viens nous encourager, nous exhorter, nous corriger même s'il le faut, Seigneur. Et puis, je te demande de vraiment faire en sorte que cette parole puisse avoir de l'efficacité ce matin, que ça puisse porter du fruit, Seigneur Dieu, dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Une petite mise en contexte du texte qu'on vient de lire. 1 Corinthiens, la plupart d'entre vous le savez, il y a plusieurs problèmes dans l'Église. Mais un de ces problèmes-là, c'est la compréhension que les Corinthiens ont des dons spirituels. Un point positif que Paul dit dès le début de l'Épître, c'est qu'ils ont tous les dons. Ça, c'est, Paul s'en réjouit. Si vous allez lire les versets 4 à 7 du premier chapitre, Paul rend grâce à Dieu pour tous les dons spirituels que les Corinthiens ont. Et ça, l'assurance que ça va servir à les affirmer jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est un super de bon point. Cependant, il semble que dans l'Église des Corinthiens, il y avait cette tendance à valoriser un don au-dessus de tous les autres dons. Et il y avait comme un peu ce message qu'on lançait à tous les chrétiens, qu'on devrait tous aspirer à ce don-là, on devrait tous avoir ce don-là, sinon on n'est pas si spirituel que ça. Et ce don, c'était le don du parler en langue. Et Paul va remettre un petit peu les choses en perspective en disant que, on ne devrait pas tous aspirer au même don. Il va prendre l'image du corps pour dire on ne devrait pas tous être une main. Ça irait mal pour parler, ça irait mal pour manger, etc. On ne serait aucunement efficace. Donc, le corps nécessite plusieurs fonctions différentes, plusieurs membres différents. Donc, Paul va les reprendre là-dessus. Et un autre élément sur lequel il va les reprendre, c'est que le don des langues, bien que c'est un très bon don, tous les dons sont bons et viennent de Dieu, malheureusement, c'est le seul don, s'il n'a pas le don d'interprétation qui le suit, c'est le seul don qui n'édifie pas l'Église, mais édifie seulement la personne qui le pratique. Alors que Paul va dire que les dons, le premier but pour lequel les dons sont donnés, c'est pour l'édification de l'Église, la communauté. La communauté devrait passer avant l'individu, surtout en contexte d'Église, et pour cette raison, le don de parler en langue devrait pas être mis de l'avant dans l'Église s'il n'est pas suivi du don d'interprétation, parce que ça vise l'éducation personnelle du chrétien et non pas l'éducation du membre du corps entier de Christ. Donc, c'est un petit peu les problèmes qu'il veut traiter, et c'est dans ce sens-là que Paul va écrire ces versets-là. Et il commence avec le verset 1 qui dit « Je ne veux pas, frère, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Une des choses qui est vraiment triste, c'est de ne pas avoir une bonne compréhension des dons spirituels et combiné à certaines mauvaises expériences, dont peut-être certains chrétiens à Corinthe vivaient, ça peut faire vraiment comme un mauvais impact. Je me souviens, c'était à ma deuxième année de ministère avec la jeunesse. On avait été à un de nos premiers réunions jeunesse. Et quelques temps qu'on était rendu dans la salle et qu'il y avait la louange, certaines personnes commencent à avoir à faire des choses bizarres, comme avoir des spasmes dans la louange. Et à un moment donné, il y a même des personnes qui commencent à japper. C'était un milieu très charismatique, mais ça semblait vraiment pas sain. Et de plus en plus, moi et les autres membres de la jeunesse, on se regardait, on était vraiment inconfortables. Et là, il y en avait qui commençaient à faire des bruits d'animaux et mimer des animaux. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu, ça? Je pense pas. Non, je vais reprendre ce que je viens de dire. Je suis sûr que non. C'est pas l'Esprit de Dieu, ça. Et on était tellement mal à l'aise qu'on est sortis. Et certaines personnes qui étaient les plus jeunes ont pleuré parce qu'ils avaient vraiment vécu quelque chose de spirituellement négatif. Et ça a été une opportunité pour nous d'éduquer sur les dons spirituels, mais imaginez si on ne communique pas qu'est-ce que dit la parole de Dieu concernant ces dons-là, et si on n'a pas le discernement, comment est-ce que ça peut nous détourner de cet aspect biblique, nous détourner, nous donner une disposition vraiment négative par rapport à tout ça, alors que Dieu a donné les dons pour bénir l'Église et pour fortifier l'Église afin qu'elle fasse efficacement sa mission, la même mission qu'il a confiée à Abraham. Donc, c'est important d'avoir la bonne connaissance concernant les dons spirituels pour faire la part des choses lorsqu'on vit des expériences comme ça, et aussi pour ne pas perdre toute cette beauté, toute cette la bonté qu'il y a là-dedans. Et je suis sûr que Satan peut utiliser ce genre d'expérience-là pour nous détourner de cette vérité biblique tellement importante. Donc, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et on va poursuivre avec le verset 2 qui dit quelque chose de vraiment intéressant. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés par des idoles muettes. Et là, après ça, il dit, « C'est pourquoi je vous le déclare, ne s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit, Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit. Personne ne dit ça s'il a l'Esprit Saint. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Alors que les idoles, tous les autres dieux des autres nations sont des faux dieux et sont muets, notre Dieu est un Dieu vivant et qui, une fois qu'il vient habiter en nous, quand on met notre foi en Jésus-Christ, il veut parler, il veut nous guider, il n'est pas muet, lui. Il veut agir par nous, au travers de nous. Dieu n'est pas muet comme les idoles, Dieu est vivant. Et la première chose que Dieu fait quand il vient nous habiter par son esprit, c'est de nous apporter à la connaissance de Jésus-Christ. Le seul et unique don spirituel qu'on a tous en commun, c'est quoi? Le seul et unique don spirituel qu'on a tous en commun, c'est quoi? La foi en Jésus-Christ. La foi que Jésus est Seigneur, et ça, c'est le plus gros cadeau que Dieu a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le seul et unique don spirituel qu'on a tous en commun, c'est Jésus. Et cette connaissance-là, qui est plus une connaissance théorique que les démons partagent avec nous, cette connaissance-là, c'est une connaissance aussi du cœur, c'est le fait que non seulement on croit que Jésus est Seigneur, mais qu'on l'aime, qu'on veut le suivre, et qu'il est notre Dieu auquel on se soumet. Et ça, c'est le premier fruit du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Avant de parler en langue, avant la prophétie, avant n'importe quel autre service, même servir aux tables, comme dans Actes 6, le fruit du Saint-Esprit, c'est confesser Christ, que c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu, on lui obéit, on marche dans ses voies. Mais par la suite, Paul, il va lister, il va énumérer une panoplie d'autres dons qui, pour être bien honnête avec vous, longtemps m'ont apparu surnaturels, comme pratiquement mystiques, comme des dons qu'on ne voit pas tous les jours, que c'est assez rare qu'on voit. Paul va en lister 9 ici, et dans d'autres épîtres, il va en énumérer d'autres, et même si on va voir ailleurs dans la Bible, on peut en trouver d'autres aussi. Qu'est-ce qu'un don spirituel? Ce matin, on a commencé la formation, on a eu un très bon temps, on était environ 7 personnes, je crois, 7-8 personnes, et puis on a pu entrer dans le bain, on s'est introduit avec ces notions-là, et je me suis dit que ça serait bon de communiquer ça aussi à toute l'Église et de prendre une autre angle. Faut pas trop me répéter avec un matin, ceux qui seront venus vont se dire pourquoi qu'on s'est levé aussitôt, mais il y a quand même quelques notions qui reviennent dans mon message. Mais qu'est-ce qu'un don spirituel? Selon Charles Schwartz, ce nom allemand très difficile à dire, un don spirituel est une capacité particulière que le Saint-Esprit donne, selon la grâce de Dieu, à chaque membre du corps de Christ et qui doit être utilisé pour l'édification de l'Église. Je vais le répéter. Un don spirituel est une capacité particulière que le Saint-Esprit donne, selon la grâce de Dieu, à chaque membre du corps de Christ et qui doit être utilisé pour l'édification de l'Église. Un des premiers éléments qui parle, c'est que c'est une capacité particulière, c'est-à-dire que cette capacité-là, Dieu la donne peut-être à Benjamin et ce n'est pas toutes les autres personnes dans l'Église qui vont avoir la même capacité que Benjamin. J'aimerais bien voir qu'il y a certaines personnes sur le PowerPoint. Là. Marie-André, comment tu débrouillerais sur le PowerPoint? Ouais. Mais à l'inverse, si on met Benjamin à louange, je pourrais prendre le pire des cas, ça serait moi la louange. Non, c'est pas vrai. Mais vous ne voulez pas que j'aie la louange. Mais c'est des capacités particulières que certains ont, que d'autres n'ont pas. Et dans ce sens, on devient complémentaire, un, et dépendants les uns des autres, numéro 2. Mais c'est ça, c'est des dons qui sont particuliers. Et je veux tout de suite comme enlever cette idée que c'est des dons seulement surnaturels. Je pense qu'il y a des dons qui sont surnaturels comme la guérison, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, de parler en langue. Je crois que c'est clairement des dons surnaturels. Mais je crois aussi qu'il y a des dons que Dieu utilise qui sont vraiment en lien avec notre personnalité, et c'est-à-dire nos valeurs, avec ce qui est important pour nous. Quand on vient dans l'Église et qu'on remarque certaines choses que les autres ne remarquent pas, ça, c'est un indicateur que peut-être qu'il y a un don qui est là. Et nos jugements, souvent, on les fait en fonction de nos valeurs. Donc, ça, c'est lié avec notre personnalité. Et dans ce sens, il y a une continuité entre une personne qui est non chrétienne et cette même personne-là qui devient chrétien. Le Saint-Esprit peut utiliser ses talents naturels, et une fois qu'il est chrétien, ces talents-là ne deviennent pas juste des talents, mais des dons spirituels. Et qu'est-ce qui change? C'est leur orientation. Alors que ces dons-là servaient dans le passé à la promotion personnelle, à sa propre gloire, à son propre intérêt, à sa propre estime, ce chrétien-là va les utiliser pour la gloire de Dieu, va les utiliser pour faire du bien aux autres. Et dans son orientation, ce talent-là humain va devenir un don spirituel. Souvent, c'est le cas. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Un don, un exemple de cela qui est vraiment manifeste pour moi, et je vous ai déjà partagé cet enseignement-là, c'est Moïse. Allez lire Exode 2, Moïse avant d'avoir l'appel de Dieu. Moïse, il fait des choses naturellement pour délivrer les gens. Il y a des Israélites qui se font maltraiter. Moïse intervient et tue l'Égyptien. Lui, il veut délivrer les gens sous l'oppression. Un peu plus tard, encore dans Exode 2, Moïse s'en va à Madian. Et là, il y a des femmes, des bergères qui sont oppressées. Qu'est-ce que Moïse fait? Il les défend contre les autres bergers. Et puis, Moïse a cette tendance naturelle à délivrer les personnes qui sont sous l'oppression. Et là, Dieu... On voit le beau parallèle dans Exode 2. Tu vois que Dieu regarde la misère des Israélites, que Dieu désire les délivrer, et toutes ces choses-là, on voit que Moïse le fait comme c'est dans sa personnalité. Et là, Dieu va l'appeler dans Exode 3. Et on voit que à partir de là, c'est vraiment une tâche qui dépasse de loin Moïse, mais Dieu lui promet qu'il va être avec lui. Et dans Nombre 11, on voit que en fait, c'est pas juste la présence de Dieu, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui était avec Moïse. Donc, on voit que avant que Moïse rencontre Dieu, il y avait des dons, des talents naturels. Puis quand que Moïse a reçu l'appel de Dieu, Dieu s'est servi de ça, mais ça dépassait tellement ce que lui pouvait faire humainement que ça n'a pas eu le choix d'être des dons spirituels. Il fallait que ça soit plus que ces petits dons humains, là. Vous comprenez? Fait que je sais pas quelle est votre perspective sur les dons, mais moi je pense que clairement les Écritures nous affirment qu'il y a des dons qui sont surnaturels, mais il y a aussi une continuité. L'Esprit peut utiliser nos talents avant qu'on le connaisse et les spiritualiser si on veut. Et je crois personnellement que souvent c'est le cas. Donc, dans ma définition, je disais que c'est une capacité particulière. Deuxième chose que je disais, c'est que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient, qui est le catalyseur de ça, qui vient initier cette force-là en nous, ce désir-là de servir, de remplir des fonctions pour le bien des autres. Et c'est pas juste un désir humain. Ce qui est intéressant, c'est de comparer, si vous avez la chance, là, lisez Actes et comparez Actes avec le ministère de Jésus dans Luc. Luc a écrit l'Évangile et Actes des Apôtres, et comparez Jésus et son ministère à celui des 12 apôtres. Et vous allez voir que c'est un parallèle qui est pratiquement exact. Qu'est-ce qui a déterminé le commencement du ministère de Jésus? C'est son baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a commencé le ministère des 12 apôtres? La Pentecôte, qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'initiateur. Suite après, vous remarquez, Jésus va à Capernaum et il ouvre les Écritures et il pointe un passage prophétique d'Ésaïe qui dit « L'Esprit est sur moi ». Il m'a oint pour que j'annonce la bonne nouvelle, je proclame une année de grâce et je libère les opprimés, etc. Donc, il prend une prophétie biblique concernant le Saint-Esprit et il se l'applique. Qu'est-ce qui se passe dans Actes après la Pentecôte? Pierre, il va prendre la parole puis il va dire « Ce que vous voyez, ce que vous attestez maintenant ici, c'est ce que le prophète Joël avait annoncé. » Lorsqu'il a dit dans les derniers temps, toute chair va recevoir de l'esprit, les filles et mes fils prophétiseront, mes vieillards et les personnes âgées auront des songes. Il prend une prophétie de l'Ancien Testament concernant le Saint-Esprit et il se l'applique. Et vous pouvez continuer comme ça, Luc et Actes, les apôtres et Jésus, et dans les deux cas, c'est pareil, c'est la même séquence. Et là, Jésus part de tel endroit qui est en Judée, puis il s'en va à Jérusalem, qui est le centre le plus important du judaïsme. Les apôtres font quoi? Ils partent de Jérusalem, puis s'en vont à Rome, puis Paul termine sa course à Rome dans Actes, qui est le centre le plus important du monde grec à l'époque, ou romain, excusez-moi, à l'époque. Vraiment intéressant. De la même manière, nous, on doit partir comme Jésus et les douze apôtres ont parti et continuer par l'esprit de tous les services qu'on fait pour le Seigneur. C'est là que se trouve l'efficacité. On ne peut pas faire le travail de Dieu sans l'assistance de Dieu. C'est une perte de temps. Si l'Éternel ne construit la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. C'est vraiment une notion fondamentale et c'est vraiment intéressant de voir l'ensemble, l'unanimité des Écritures à ce niveau-là. Dans le texte qu'on a lu, ça dit plusieurs fois à chacun. Regardez par exemple le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Le verset 18 qu'on n'a pas lu. En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et enfin, le verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Avons-nous tous un don spirituel? Oui, on en a tous un. Chaque personne est placée dans le corps pour avoir une fonction particulière et agir dans le plan de Dieu. Quand je faisais mes études en théologie à Montréal, je me souviens, à un moment donné, il y a une nuit où j'ai dormi à plat ventre sur mon bras. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et là, pendant, j'imagine, une bonne période de temps, j'ai dormi comme ça sur mon ventre. À un moment donné, je me réveille dans la nuit, et là, ça m'était jamais arrivé. Et là, je me réveille, et là, mon bras, je n'ai plus. C'est rendu un membre inerte, complètement inerte. Et là, je faisais ça comme ça, là, puis là, il bougeait, c'était tout mou, là. Là, j'étais certain, à ce moment-là, que j'allais devoir amputer mon bras. J'étais convaincu, en plein milieu de la nuit, au point que, j'ai crié trois fois dans ma chambre. Au nom de Jésus, que mon bras reprenne vie. Au nom de Jésus, que mon bras reprenne vie. Au nom de Jésus, que mon bras reprenne vie. Mais là, je pouvais pas le faire avec mon bras comme ça, là. Mais, j'étais tellement paniqué. J'étais certain. Je me voyais déjà avec le bras coupé, là. Puis j'étais comme, là, après quelques temps, je ressens tranquillement mon bras reprendre. Puis, oh, merci Seigneur, l'efficacité de la prière. Mais, donc, j'ai réalisé après que c'est des choses normales qui arrivent souvent, là, ça m'est arrivé plus qu'une fois après, mais la panique que j'ai eue à l'idée d'avoir un bras coupé, c'était indescriptible. C'était panique que j'ai rarement vécue, tu sais. Et est-ce que l'Église de Dieu, est-ce que le corps de Christ a un bras qu'il doit couper? J'espère que non. chaque membre a sa fonction, chaque membre est important. Même si ça aurait été juste mon petit doigt que j'aurais pensé devoir couper, j'aurais paniqué pratiquement autant. Peut-être pas autant, mais quand même. T'sais, chaque membre est vraiment, vraiment important. Et dès que il y a un des membres qui pose problème, tout le corps est mobilisé. Ces temps-ci, c'est mon œil droit, là. Il a tendance à bouger tout seul. Bon, je pense que c'est la fatigue un petit peu, mais si ça persiste, je vais aller voir le médecin. En Benoît? Il est pas là? Ouais. Il est en bas. Mais, donc, on veut que chaque membre de notre corps soit en santé et c'est juste normal. Un autre élément de la définition que j'ai dit tantôt, c'est que tout ça doit être utilisé pour l'édification du corps de Christ. Une des tristes réalités à Corinthe, c'est que les gens utilisaient les dons spirituels non pas pour l'édification du corps de Christ, mais pour leur propre gloire. Et c'est pour ça que il y a un des plus beaux chapitres qu'on utilise souvent pour le mariage, mais pas pour les dons spirituels, qui est 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Mais tout ce chapitre-là apporte le chrétien à réfléchir sur, dans le fond, c'est quoi exactement que tu vises comme impact? C'est-tu le bien des autres? C'est-tu ta propre gloire, ton propre intérêt? Ou bien c'est l'édification du corps de Christ? Et puis, c'est vraiment, vraiment beau. Peut-être je pourrais lire quelques versets juste dans ce sens. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » La femme disait cette semaine qu'elle avait écouté le DVD « Not a fan » et dans ce DVD-là, il y a une phrase qui l'a frappée qui dit « Sans Jésus, tu ne peux rien et sans l'amour, tu n'es rien. » Et je pense que ça résume bien l'essence de un peu mon message aussi. Sans le Saint-Esprit, sans sa présence qui est à l'œuvre au travers de nous, on ne peut rien. Et sans l'amour non plus, sans cette orientation vers l'autre et faire passer l'autre d'abord avant soi-même aussi, on n'est rien. Donc, c'est important que les dons spirituels soient orientés vers la communauté et non pas pour notre propre éducation d'abord. Une des choses qui se passe généralement quand on pratique nos dons, c'est que on le fait avec passion. Et puis, Wayne Cordero a écrit ceci. « Lorsque vous servirez en fonction de vos dons et de votre passion, votre efficacité sera au maximum et votre lassitude au minimum. » Je vais la répéter. « Lorsque vous servirez en fonction de vos dons et de votre passion, votre efficacité sera au maximum et votre lassitude au minimum. » C'est tellement vrai. Quand on dans le Seigneur, on a des passions, puis ça, souvent, c'est un indicateur de nos dons. Et lorsqu'on sert en fonction de ça, les choses sont beaucoup plus faciles pour nous. Et ça ne veut pas dire, par exemple, qu'on peut, se déresponsabiliser de certains devoirs qu'on a tous sur la base que ce n'est pas notre don. Une bonne distinction à faire entre tes dons spirituels, c'est qu'il y a aussi des services universels. Par exemple, il y a un don spirituel qu'on appelle l'évangéliste. Il y a aussi un grand mandat qu'on appelle, dans le fond, de faire toutes les nations des disciples. Et ça, c'est pas juste adressé aux évangélistes, c'est adressé à tous les chrétiens. Fait que le don spirituel d'évangéliste, faut être capable de discerner ça du service universel d'évangélisation et de pas juger chacun des chrétiens à la lumière de l'évangéliste. Mais on peut s'inspirer de l'évangéliste, mais c'est son don, il excelle là-dedans, c'est une passion pour cette personne-là. Mais c'est ça, là, le chrétien qui n'a pas le don d'évangéliste ne doit pas dire « ben j'ai pas ce don-là, donc j'évangéliserai jamais ». On est tous appelés à témoigner occasionnellement de notre foi. Et de la même manière, il y a un don qu'on appelle la libéralité dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont un don de générosité, qui sont vraiment... quand ils voient des besoins, c'est des personnes qui vont donner beaucoup en argent, en matériel, pour subvenir à ces besoins-là.
Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes, les chrétiens qui n'ont pas le don de libéralité, n'ont pas à participer à l'offrande ou à la dîme le dimanche matin parce que c'est pas leur don? Évidemment, non. Fait que ça, c'est une bonne distinction à faire. Le don spirituel et le service universel. Alright, je pense que je vais faire un petit exercice interactif avec vous pour se dégourdir un petit peu, pour se réveiller un petit peu. J'aurais besoin peut-être d'une personne ou deux pour distribuer une feuille par rangée et un crayon par rangée. Est-ce que Benjamin, tu veux pièce, vous voulez pas ça? Fait que juste peut-être séparer ça. Une feuille et un crayon par rangée. OK. Ça, c'est une liste de dons spirituels. Et là, on va voir tout de suite les dons. C'est qui le secrétaire parmi la rangée? C'est qui le président parmi la rangée? C'est qui? Mais la liste de dons qui vous est distribuée, dans le fond, l'exercice, je vais vous laisser 5 minutes. Puis, ce que je vous demande de faire, c'est de trouver dans la Bible... Trouvez dans la Bible un exemple d'une personne qui a ce don-là. Et là, vous ne pouvez pas mettre Jésus partout. Vous pouvez juste mettre Jésus une fois. Et donc, en 5 minutes, trouvez le plus de personnes qui démontrent avoir les dons qui sont inscrits sur la feuille. Non, ben, plus dans la Bible, là. Ouais, ben. Et juste pour préciser, l'exercice, c'est de trouver une personne dans la Bible qui a le don qui est inscrit. C'est bon? Le plus possible. Un nom, une fois. Je peux pas mettre plus que...
Bon, une dernière minute. Bon, OK, je vais vous demander de reprendre place, s'il vous plaît. En tout cas, on voit tout de suite qui n'a pas le don d'écoute. C'est une blague. C'est grave, hein? Je vous agace.
Bon. Donc maintenant, on va commencer. On va voir qui a trouvé quoi. Disons deux par équipe, là. Comme vous, quel vous avez trouvé? OK. Pierre, OK. OK, on va arrêter là pour en laisser aux autres. OK, fait qu'on a l'aide, on a le berger, puis on a l'apôtre. OK, deuxième équipe, vous autres? Est-ce que vous en avez trouvé? OK, ouais, un autre exemple. Oui. Ah, OK. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, absolument. Étienne, il y a eu très, très bien, merci. OK, fait que l'équipe de Jean Bomolo. OK. Oui. OK. Joseph, dans quel sens, donc? Peut-être que c'est moi qui ai un blanc de mémoire. Ah, ben oui. Okay. Ouais. Non, c'est bon. Ah, parfait. C'est excellent, ça. L'équipe au fond, je ne sais pas s'il y en a plus qu'une. Ou... OK. Ah, c'est bon, on va en laisser aux autres, c'est super. Vous en avez pas mal. OK, dans le fond, est-ce que vous avez eu le temps, vous autres, d'en trouver une coupe? Ah, vous en avez notre équipe, là. OK, excusez. OK, allez-y. Oh! Ouais. Ah, c'est bon, des nouveaux. Ben oui, c'est ça. Dans le fond. Qui? Ça l'a. OK, non, c'est bon, merci. C'est très bon. Vous, est-ce que vous en avez? Ouais. Excusez? Ah, musique, David. Ah, ouais. C'est très bon. Il n'avait pas été nommé encore, celui-là. Ouais. Super. Bon, il y en a de moins en moins, hein. Ils ont pas mal été dit, mais est-ce que vous en avez? Vous?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Ah. C'est quoi la référence? On veut voir si c'est vrai, là. Ouais, vous, je m'en ferai pas passer une vite, là. 31.6. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ashimaka, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je l'ai ordonné. Super! C'est bon! Hey, hein, ça vaut plusieurs. Gaius, OK.
Organisation Nicanor.
Hey, vous êtes bons, mais... Bon, les autres avec vous. Acte 6. C'est Nicanor, acte 6. Je connais pas bien ma Bible. Acte 6. Le Seigneur me remet à ma place. Hein? Acte 6, c'est qui? Nicanor? Et qu'est-ce qu'il fait? Ce discours plut à toute la multitude des élus. Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Wow! Nicanor! C'est tout Daniel qui a trouvé ça? Ok. C'est bon. En tout cas. Ok. Bon, ben, on va passer à nos deux dernières équipes. Ouais, c'est super bon. Il n'avait même pas été dit, hein, Salomon, c'est juste? Bon, il nous reste une équipe. Eux, ils n'ont rien trouvé. Prière à Anne, OK. Ah. Mais eux, ils ont nommé quelque chose, par exemple, je pense. Ils ont nommé un passage dans Exode sur les habiletés. Je pense que oui, Lydia, je pense que ça a été dit. Mais c'est quoi votre nom, c'est correct? Ah. Ah, ben oui. Elle les a reçus, elle les a protégés. C'est vrai. Winnie? Dorca. Ouais. OK. Elle est-tu d'or? C'est tout? Ouais? Il dit passer. J'ai vu pendant que vous étiez tous en train de faire le devoir, Benjamin est en train de lire la Bible. Je me disais, Benjamin est trop tard pour être allé avant. C'est une blague. C'est une blague. Mais cet exercice-là nous fait voir que, dans le fond, il y a plusieurs personnes qui incarnent les dons spirituels ou d'autres habiletés que le Saint-Esprit vient utiliser une fois qu'il vient les habiter. Et puis, je trouve que c'est bien de voir ça parce que ça peut nous paraître théorique, abstrait et lointain quand on le voit dans une liste, dans les épîtres, mais quand on le voit incarné dans la vie d'une personne, dans les livres narratifs où est-ce qu'on compte des histoires, on voit que ça prend forme, on voit que c'est vraiment, on a plusieurs exemples, puis on peut mieux voir si on connecte avec cette personne-là, si, ah oui, je me vois dans cette personne-là, ça veut dire peut-être que j'ai le don que cette personne-là avait. Donc, c'est un exercice super bien à faire pour cela. Ok, j'ai terminé avec deux images. L'Église ne devrait pas ressembler à un match d'hockey, mais plutôt à une chaîne. L'Église ne devrait pas ressembler à un match d'hockey, mais plutôt à une chaîne. Dans un match d'hockey, je vous laisse ceci, c'est Ray Beakey qui a écrit ceci. Certaines églises ressemblent à un match de hockey où 20 000 spectateurs en mal d'exercice regardent 22 joueurs en mal de repos. Les membres passifs applaudissent et encouragent ou le plus souvent critiquent et raillent une petite équipe surmenée. Là, il continue. Même le pasteur le plus doué et le plus énergétique finira par lasser son public. Son rôle est plutôt de mobiliser les membres et de mettre en œuvre les dons de tous. Donc ça, c'est l'image hockey. On a eu des belles séries là qui ont pris fin cette semaine pour les partisans. Mais de l'autre côté, Dietrich Bonhoeffer, il dit qu'au contraire, l'Église devrait ressembler à une chaîne. Tout le problème dans une communauté chrétienne, il écrit, c'est que chacun devient un anneau indispensable de la même chaîne. C'est seulement lorsque tous les anneaux tiennent jusqu'au plus petit qu'une chaîne ne peut pas être brisée. Une communauté qui tolère, bon, lui, il va Il va dire, une communauté qui tolère des membres inutiles prépare de se faire sa ruine. Donc, dans le fond, il dit que l'Église est aussi forte que le petit maillon est solide. Dans le fond, tous les maillons doivent être solides et faire partie de la chaîne pour qu'en bout de ligne, on ait une chaîne. Donc, c'est des petites images qui peuvent nous aider des fois à retenir le message. Donc, avant de conclure, il est déjà 11h25, j'aimerais tout simplement vous laisser la chance de peut-être dire un commentaire ou dire une question en lien avec le message qui a été dit. Puis après ça, on peut terminer en prière. Donc, juste peut-être laisser une petite minute, là. Avez-vous des commentaires ou questions avec en lien avec ce qui a été dit? Non? Ça rendrait justice à... Oui? OK, c'est très bien vu comme ça, vous avez raison. Si on voit l'Église comme l'équipe qui est sur la patinoire, ça donne l'image qu'il faut qu'on travaille ensemble, puis on ne doit pas jouer indépendamment, là, sinon on ne réussira pas à faire bien des buts. Une ligue de garage qui n'a pas de spectateurs. Tiens, elle nous a tout réglé ça. Donc, sagesse? Non. Oui, Mini? Super, merci d'encouragement. C'est un appel à la prière et à la réflexion durant cette semaine concernant notre don, notre place dans l'Église, notre morceau du casse-tête, comme le dépliant là, que Claire a fait. Oui, Lise?
Je pense que l'ingrédient principal aussi, c'est partager nos dons, c'est l'amour. Parce qu'on ne fait pas par devoir. Des fois, il y a des personnes qui remarquent nos dons, on les a voir. Mais on peut dire qu'on n'a pas de mérite, parce que ça vient vraiment du Seigneur. Puis, on fait par amour aussi, pas parce que je suis obligée, pour qu'on me demande de faire par devoir. J'ai vu qu'on m'a dit par devoir, je prie pour par devoir, je suis par amour. Alors, et ça prend un minimum d'obéissance. C'est bien que le Seigneur nous dit, je te demande de faire ça. Ça va pas être parce qu'on a don, c'est facile. Mais,
c'est un très bel équilibre que tu nous présentes. Hein? D'un côté, il y a une passion qui souvent est là, mais de l'autre côté, c'est vrai qu'on peut, on peut tomber dans le sentiment d'obligation, de devoir, et on doit toujours, on espère rester du côté de la passion du cœur, mais des fois, il faut juste le petit coup initial. Hein? Il y a la loi de l'inertie là, qui dit qu'un effort est plus demandant au premier coup, puis après ça, il y a un effort moindre pour continuer. Là. Mais un très bel équilibre. Merci pour cette parole. Une dernière personne? Oui? OK. Bien, merci. J'entends le fond de ta pensée qui dit qu'on devrait se rapprocher le plus de Dieu possible, puis on devrait se nourrir le plus possible des choses de Dieu. Puis là-dedans, je trouve ça louable et je pense qu'on a tous à retenir la parole que tu nous as partagée. L'autre côté, je veux juste dire qu'il y a, je pense pas qu'il y a rien de mal en le fait de regarder le hockey, mais je comprends par exemple l'exhortation que tu nous donnes de pas tomber dans l'esprit mondain des fois qui peut être tellement partisan, tellement emporté dans ces choses-là que dans le fond on prend plus de temps là-dedans que dans les choses de Dieu et là il y a un problème, c'est vrai. Donc ben merci pour ton exhortation. Donc on va terminer en prière et merci pour votre participation. Seigneur Dieu, on veut te louer pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour toute la richesse qu'il y a dans chacun d'entre nous, Seigneur, au niveau expérientiel, au niveau de nos connaissances, au niveau de nos capacités que tu nous as données, Seigneur. Merci parce que par ton esprit, tu prends tout cela, Seigneur, et tu fais une belle mosaïque, tu fais un beau travail, tu veux bénir, Seigneur, la communauté là où tu nous as placés et toutes les nations, comme Abraham, Seigneur. Ma prière, c'est que cette semaine, on puisse prendre un temps fort pour réfléchir à comment tu veux accomplir ta promesse à toutes les nations par nous, Seigneur, et comment cela prend forme au travers des dons spirituels que tu nous as donnés. Donc, je te demande de continuer de nous parler comme on s'en va ce matin. Continue par ton esprit de parler à nos cœurs et qu'on puisse le faire, comme ma sœur le dit, par amour et passion, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.